La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin pour l'édition 2020 du Camp Meeting, de notre Camp Meeting. Et le Camp Meeting a pour thème, amen, la nuit approche, écoutons l'appel du Seigneur, amen. Et nous allons avoir cette présentation d'introduction et nous invitons, avant de commencer, chacun d'entre vous là où c'est possible à pouvoir se prosterner pour invoquer la présence du Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier car tu nous as maintenus en vie jusqu'à cet instant et tu as permis que nous puissions être rassemblés ici. Et il y a de ceux qui, pour plusieurs raisons, diverses raisons, n'ont pas pu être présents et tu en connais les raisons. Et nous voulons te demander, tendre Père Céleste, quel que soit l'endroit où nous nous situons, que nous puissions recevoir une bénédiction durant cette heure au travers de ce message. Que tu puisses disposer les cœurs de chacun afin qu'ils soient assez meubles pour recevoir la semence de ta parole. Et que tu puisses bénir l'instrument que tu utiliseras pour semer ta parole dans les cœurs afin qu'il soit suffisamment sous ton contrôle et très précisément, totalement et entièrement sous ton contrôle pour que la semence de ta parole puisse être logée et que ton Esprit Saint puisse œuvrer dans les cœurs avec cette semence. Veuille mettre en déroute l'ennemi de nos âmes car il s'agit de choses importantes dont nous allons parler non seulement ce soir, mais aussi tout au long de la semaine. Alors, bénis chacun d'entre nous, bénis ce Camp Meeting, bénis ton peuple, et que ta volonté soit faite dans notre vie. Nous t'en prions, donc que nous en soyons dignes, faibles et pauvres pécheurs que nous sommes, qui avons besoin de ton pardon et de ta purification. Mais c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. J'espère que tout le monde a emmené sa Bible. OK? Parce que nous allons tourner les pages de la parole de Dieu en ce soir, abondamment. Et le titre de cette présentation est « Travaillons avant la nuit ». Et le texte de base est celui du Camp Meeting. Il se trouve en Jean chapitre 9, verset 4. Où allons-nous? C'est exact. Et là, nous allons lire ce qui suit en Jean chapitre 9 et au verset 4. Et Jésus déclare, « Pendant qu'il est jour, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient dans laquelle personne ne peut travailler. » Voyez-vous, pour Jésus, le jour était le temps de son ministère ici-bas sur la terre. En effet, au chapitre 7 de ce même évangile, Jean chapitre 7, verset 33, rendons-nous ensemble en Jean chapitre 7, verset 33, où là nous pouvons lire, c'est pourquoi Jésus leur dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps et je m'en vais à celui qui m'a envoyé. » Donc, notre Seigneur était conscient qu'il n'était là que pour peu de temps. Mais il savait justement que la nuit, à savoir le moment où il allait quitter ce monde, n'était pas loin. Comme on peut aussi le voir au chapitre 9 et au verset 5, toujours le même évangile selon Jean, chapitre 9 et au verset 5. Jean 9, verset 5, où nous pouvons lire « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela ne signifie pas que Jésus n'a été la lumière du monde que pendant son séjour historique sur la terre en personne, car il est toujours la lumière du monde. Mais ici, Jésus se référait à son rôle de lumière pendant la période où il marchait visiblement parmi les hommes. Et voyez-vous, dès sa jeunesse, Jésus était un ouvrier zélé pour l'œuvre de son Père. En effet, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 2 et au verset 49, Luc, chapitre 2 et au verset 49, nous lisons ce qui suit. Luc, chapitre 2, verset 49. Et il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il me faut être occupé aux affaires de mon Père? » Jésus avait 12 ans lorsqu'il a déclaré cela. Voyez-vous, l'objectif de sa venue et de sa vie sur terre était uniquement de faire la volonté de son Père. Comme on peut le voir en Jean, l'Évangile selon Jean, retournons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 38. Jean, chapitre 6, verset 38. Jean, chapitre 6, verset 38, où nous lisons ici, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ok? Que déclare Jésus ici? Que déclare Jésus ici? Dis-moi. Exactement. Mais il prend le temps de préciser, non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus prend le temps de dire cela. Voyez-vous? Nous devons bien comprendre quelque chose. C'est que accomplir l'œuvre de Dieu n'était pas simplement un devoir pour Jésus. Ce n'était pas simplement un devoir. Pour Jésus, accomplir l'œuvre de Dieu, c'était un besoin. En effet, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 34, l'Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 34, nous lisons là, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Remarquez les mots qu'il emploie. « Ma nourriture, dit-il, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Manger, voyez-vous, c'est un besoin pour l'être humain. Ok? Si on s'abstient de nourriture, d'alimentation, nous allons dépérir, en fait, au bout de quelques... Nous allons commencer à nous affaiblir, je vais dire, au bout de quelques jours. Ok? Eh bien, Jésus prend cette expression-là pour nous faire comprendre que pour lui, faire la volonté de Dieu, ce n'était pas simplement un devoir, mais il s'agissait là d'un besoin qu'il éprouvait en fait. Ça dépasse le devoir. C'est un besoin même. Et Dieu a été glorifié par l'achèvement de l'œuvre que Jésus est venu faire pour le salut de l'humanité, comme nous pouvons le lire en Jean 17, verset 4. Où allons-nous? Ok. Jean 17, Jean chapitre 17, verset 4. Et là, nous pouvons lire. « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire. » Amen. Jésus a glorifié son Père sur la terre. En quoi faisant? En achevant l'ouvrage, à savoir l'œuvre que le Père lui avait confiée. Dans l'ouvrage Jésus-Christ, à la page 56, paragraphe 1, la message du Seigneur nous déclare ce qui suit. Pendant toute sa vie terrestre, Jésus fut un travailleur, comment? Mou? Sans énergie? Nonchalant? Reprenons ça ensemble. Pendant toute sa vie terrestre, Jésus fut un travailleur assidu. Il s'attendait à beaucoup et il entreprenait beaucoup. Au cours de son ministère, il dit, « Il faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qu'il m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Jean 9, verset 4. Jésus ne fuyait pas les soucis et les responsabilités, comme le font beaucoup de ceux qui se disent ses disciples. Plusieurs sont faibles et incapables. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à se dérober à cette discipline. Ils peuvent se faire aimer et apprécier par certains traits de leur caractère, mais ils manquent d'énergie et sont presque inutiles quand il s'agit d'affronter des difficultés ou de surmonter des obstacles. C'est par les mêmes moyens disciplinaires qui ont agi en Christ que doivent être développés en nous l'énergie et la solidité du caractère du Christ. Et la grâce qu'il reçut nous est aussi accessible, nous est-il dit. Amen. Jésus était un travailleur assidu. D'accord? Et c'était plus qu'un devoir pour lui de faire la volonté de son Père. C'était véritablement un besoin. D'accord? Et pour l'Église, il ne peut pas en être autrement. Pour l'Église du Christ, il ne peut pas en être autrement, voyez-vous. Jésus n'est plus physiquement sur cette terre. Mais par son esprit, il désire vivre chez ceux qui croient en lui et être en eux la lumière du monde, comme on peut le lire en Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16. Où allons-nous? Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16. Et là, nous lisons en Matthieu 5, 14 à 16, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume point une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Nous sommes, de par la relation que nous avons avec Christ, de par Christ en nous, ceux qui le reçoivent, ceux qui reçoivent Christ en eux, sont la lumière du monde. Et voyez-vous, avant la création, il a été prévu quelque chose pour vous et moi. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Avant la création de notre monde, Dieu a prévu quelque chose pour chacun d'entre vous. Le plan du salut, ok? Merci, amen. Avant la création, il a été prévu que les personnes sauvées par la grâce aient de bonnes œuvres pour en témoigner. Rendons-nous en Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens, chapitre 2, et au verset 10. Où nous pouvons lire là, en Éphésiens, chapitre 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. » Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres pour nous. De sorte que nous puissions y marcher, de sorte que nous puissions les pratiquer. Ce sont de bonnes œuvres. Et lorsqu'on entend bonnes œuvres, on pourrait être tenté de se dire, ah, ça doit être de grandes œuvres. Dieu m'a certainement appelé à faire de grandes choses pour lui. Mes amis, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Car c'est ce que la Bible nous demande de comprendre en fait. Dieu ne confie pas une grande chose à un homme ou à une femme avant de l'avoir mis à l'épreuve et trouvé fidèle dans une plus petite chose. Je reprends cela. Dieu ne confie jamais. Il n'a jamais, par le passé, dans le présent, il ne confie jamais, et à l'avenir, il ne confiera jamais, en fait, de grandes choses à un homme ou à une femme avant de l'avoir mis à l'épreuve et trouvé fidèle dans une plus petite chose. Et cela, on peut le lire en Luc, chapitre 16, verset 10. Où allons-nous? Amen. Rendons-nous-y donc. Luc 16, verset 10. Où il nous est dit, en Luc 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les petites choses sera aussi injuste dans les grandes. » Je voudrais inviter chacun d'entre vous à penser à vous-même à partir de maintenant. Si cela n'avait pas été le cas jusqu'ici, pensez à vous-même. Examinez-vous vous-même maintenant. Avec les deux questions suivantes. Je vais poser deux questions. Et ces deux questions-là, j'aimerais que chacun puisse se les poser, en fait, à soi-même. Combien de fois ai-je laissé passer des occasions, voire même refuser d'accomplir une œuvre pour Dieu? Je reprends la question. Combien de fois ai-je laissé passer des occasions, voire même refusé d'accomplir une œuvre pour Dieu? Peut-être parce que je ne voulais pas produire d'efforts. Peut-être que là, c'était cela. Dans l'ouvrage Testimonies for the Church, volume 2, à la page 429, paragraphe 3, il nous est dit, vous ne devez pas vous attendre à éviter la douleur et la lassitude dans les labeurs et les épreuves de la vie. Le Fils de Dieu a participé à la structure humaine. Il était fréquemment lassé dans son corps et dans son esprit. Il était fréquemment, je reprends, lassé dans son corps et dans son esprit. Il a dit, « Je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. La nuit vient quand personne ne peut travailler. » Vous devriez cesser de rêver au loin et amener votre esprit aux tâches actuelles et les accomplir avec joie. Il y a des devoirs, mes amis, qui nous incombent aujourd'hui même à l'heure où je vous parle, en fait. Dans votre vie de tous les jours, dans ma vie de tous les jours, voyez-vous? Et peut-être que j'ai pour habitude de penser à plus tard, de me projeter au loin et de me dire « Ah, je vais faire telle ou telle chose dans la semaine prochaine » ou « Oh là, dans 2 ans, je ferai ça, Seigneur, oui, je ferai ça, etc. » En fait, oui, je le ferai d'une autre façon, en fait. Et voilà comment on laisse des tâches du moment, en fait, en suspens. Et on espère que, et on se dit que, plus tard, on va le faire. Parce qu'on ne veut pas être dérangé tout de suite. On ne veut pas produire d'efforts sur le champ. Mes amis, Jésus était un ouvrier assidu. Deuxième question. Combien de fois ai-je laissé passer des occasions, voire même refusé d'accomplir une œuvre pour Dieu? Peut-être parce que j'ai estimé qu'un chrétien de mon niveau méritait d'accomplir une œuvre plus importante que celle-là, celle qu'il m'est attribuée. Je reprends la question. Et on s'examine toujours chacun, en fait. Combien de fois ai-je laissé passer des occasions, voire même refusé d'accomplir une œuvre pour Dieu parce que j'ai sans doute estimé qu'un chrétien de mon niveau méritait d'accomplir une œuvre pour Dieu bien plus importante que celle que la Providence m'accorde. Lisons ensemble Témoignage pour l'Église, volume 3, page 60, paragraphe 2. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 60, paragraphe 2. Au lieu de vouloir choisir le travail qui nous plaît le plus et de refuser celui que nos frères désirent nous confier, disons avec la parole, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Au lieu de suivre nos inclinations, adressons à Dieu cette prière. « Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. » Pouvons-nous lire en psaume 27, verset 11. Il se peut parfois qu'il y ait une tâche qui nous soit confiée. Que Dieu place une tâche devant nous, par son Église, par son peuple, par les frères et sœurs même, qui nous propose d'accomplir telle ou telle chose pour la cause de Dieu. Mais que nous estimions que ça ne nous plaît pas. Telle ou telle tâche ne me plaît pas, en fait. Certainement parce que je vaux mieux que cela. Mais mes amis, le roi de l'univers, celui par qui Dieu a créé toutes choses, il est venu sur terre et a œuvré pendant plusieurs années dans une échoppe de charpentier, en fait, à travailler du bois, en fait. Et voyez-vous, je pense que pour celui qui a créé toutes choses, venir aussi où tu as travaillé du bois, en fait, ça ne devait pas être une tâche forcément des plus exaltantes. Mais pourtant, il a mis son cœur au travail. Il a mis son cœur au travail. Et il travaillait avec joie. J'aimerais vous poser une dernière question. Après vous avoir posé ces deux questions-là. Souhaitons-nous que la mort nous surprenne dans nos infidélités envers l'œuvre de Dieu, de sorte que le jour où nous paraîtrons devant le tribunal de Dieu, nous ayons à en rougir. Je pose cette question, voyez-vous, car la Bible déclare en Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10, rendons-nous-y ensemble, Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10, Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10, où là nous lisons Ecclésiaste 9, 10, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le sépulcre où tu vas. Mes amis, lorsque la mort, et si la mort nous surprend, il sera alors trop tard. Il sera alors trop tard pour faire quoi que ce soit pour l'œuvre de Dieu. Il sera alors trop tard pour accomplir quoi que ce soit, mes amis. C'est pour cela que nous devons appliquer notre cœur dans toutes les petites tâches et œuvres que Dieu place sur notre chemin. Car après la mort, il n'y aura aucune opportunité pour nous de rattraper celles, donc les opportunités que nous avons négligées durant cette vie. Ce ne sera plus possible, mes amis. Ce ne sera plus possible. Alors, que faire si nous avons péché à cet égard? Que faire si nous avons laissé passer des opportunités de pouvoir servir Dieu? Eh bien, nous devons faire ce qui nous est marqué en Éphésiens 5, versets 16 et 17. Où allons-nous? Amen. Éphésiens 5, versets 16 et 17. Où il nous est dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans prudence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Littéralement, racheter le temps ici signifie saisir le moment opportun. Autrement dit, tirer le meilleur parti de l'occasion. Il nous faut profiter de chaque instant, bien-aimés, pour accomplir de grands et nobles objectifs. Et telle est l'obligation, mais aussi le privilège que nous avons chacun d'entre nous. Il ne s'agit donc pas de pouvoir avoir le même nombre de temps qu'on a perdu. Une fois qu'on a perdu son temps, mes amis, on ne le rattrapera pas. Le passé dans le passé. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est saisir à l'avenir toutes les opportunités. Ainsi, racheter le temps est bien plus que s'abstenir de l'oisiveté ou d'activités frivoles. Il nous faut rechercher activement l'occasion de faire du bien. En Jean 6, verset 27, Jean chapitre 6, verset 27, Jean 6, verset 27, il nous est dit ici, « Travaillez non point pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure jusqu'à la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car le Père Dieu l'a marqué de son sceau. » Le travail que Jésus réprime ici n'est pas celui qui est nécessaire pour gagner sa vie. Ce n'est pas le travail en lui-même que Jésus est en train de reprendre, en fait, ou de dénoncer. Mais sa réprimande s'adresse plutôt à l'attention qu'on accorde. Sa réprimande s'adresse plutôt à l'attention qui est portée à ce travail, ou à la sur-attention, à l'exagération de l'attention, au point de négliger, en fait, les choses spirituelles. Ce que Jésus réprimande ici, c'est l'habitude courante que nous avons de ne travailler que pour les choses du temps et d'ignorer les choses de l'éternité. Et c'est pour cela que Jésus déclare en Matthieu 6, verset 33, où allons-nous? Matthieu 6, verset 33, et là il nous est dit, « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Notez cela, la priorité, mes amis, Jésus nous l'indique, c'est de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses, à savoir tout ce qui nous est nécessaire pour notre vie ici-bas, nous sera donné par-dessus. Ainsi, le grand but de l'existence de l'homme est de rechercher le Seigneur. Mais voyez-vous, il y a un obstacle. Ne pensez pas que c'est facile. Il y a un obstacle. Car cette recherche, pour qu'elle soit, pour qu'on puisse parvenir à son aboutissement, elle implique une mort. Rendons-nous en Jean 12, verset 24. Jean chapitre, l'évangile selon Jean chapitre 12, verset 24. Et considérons ce que Jésus déclara ici en Jean chapitre 12, verset 24. Jean chapitre 12, verset 24. Et là, il est dit, en Jean 12, verset 24, « en vérité, je vous le dis, si le grain de froment ne meurt après qu'on l'ait jeté dans la terre, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » De quoi s'agit-il ici? Comment comprendre ce verset? Cela est une illustration simple de la nature, des choses naturelles que Jésus prend ici. Un grain de froment placé dans le sol meurt en tant que grain de froment. Mais la vie que ce grain comporte, contient, n'est pas détruite. Il y a dans ce grain un germe de vie que la dissolution, en fait, du grain ne peut détruire. Et dans la croissance de la nouvelle plante, un grain devient plusieurs grains. Cependant, cette multiplication ne peut pas avoir lieu si le grain n'est pas jeté en terre. Et voyez-vous, c'est ce qui s'est passé avec Jésus. S'il avait choisi de ne pas mourir pour notre race coupable, s'il avait choisi de ne pas effectuer ce sacrifice, s'il s'était contenté de rester confortablement là où est-ce qu'il était, et même de refuser d'aller plus loin, ne serait-ce que cela, il serait resté seul. Avec son Père, au ciel, et avec les anges qui n'ont pas péché. La race humaine aurait péri et il n'y aurait pas eu de récolte d'âmes pour le royaume. Mais par sa mort, alléluia et gloire soit rendue à Dieu, Jésus a apporté la vie à tous ceux qui veulent fixer leur foi, placer leur foi en lui. Et voyez-vous, mes amis, il en est de même pour vous et pour moi. Il en est de même pour vous et pour moi. Rendons-nous en Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Où allons-nous? Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Et là, nous lisons « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Mes amis, quelles sont les œuvres que notre nature, que par nature, nous sommes conduits à produire et que dans lesquelles nous choisissons de pratiquer. Voilà les œuvres que nous produisons lorsque Christ ne vit pas en nous. Comme il le déclare en Jean 15, verset 4. Rendons-nous en Jean 15, verset 4. Jean chapitre 15, verset 4. L'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 4. Et ce sera 4 et 5 en réalité. Là, nous lisons « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure au cep, vous non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, a-t-il dit, vous ne pouvez rien faire. » Voyez-vous, si nous demeurons cachés en Christ et lui en nous, nous porterons alors du fruit. Et Dieu en sera glorifié, comme on peut le lire plus bas, au verset 8. Portons nos regards maintenant sur le verset 8 de Jean 15. « Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. » Donc, nous comprenons ici que Jésus nous dit que ses disciples sont ceux qui portent du fruit. Et voyez-vous, le fruit, mes amis, qui glorifie Dieu est celui dont il nous est parlé en Galates. Retournons en Galates chapitre 5 et lisons là, en Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Galates chapitre 5, versets 22 et versets 23. Galates 5, versets 22 et 23. Oui, il nous est dit ici, « Mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. » Mes amis, c'est maintenant le moment pour chacun d'entre nous d'être rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire d'être baptisé d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de l'amour du bien, de la fidélité, de la douceur et de la tempérance. Il nous faut travailler avec crainte et tremblement à ces choses, comme on peut le lire en Philippiens 2, verset 12. Où allons-nous? Philippiens 2, verset 12. C'est exact. Philippiens 2, verset 12. Où il nous est dit ici, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais plus encore maintenant en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » C'est avec crainte et tremblement, mes amis, que nous devons travailler à ce salut, travailler à recevoir la présence de Dieu en nous par son esprit. Car la nuit est avancée, mes amis. La nuit est avancée. Et Paul nous en parle ainsi en Romains 13, verset 12. Romains 13, verset 12. Allons-y donc ensemble en Romains 13, verset 12. Et ce sera notre avant-dernier texte. Romains 13, verset 12. « Romains 13, verset 12. Où nous lisons là, en Romains 13, verset 12, « La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. » Des armes de lumière, mes amis. Et si nous accomplissons cela, si nous travaillons avec crainte et tremblement à notre salut, si nous travaillons aux œuvres de Dieu, eh bien, mes amis, c'est alors que nous pourrons accomplir une prophétie. Est-ce que vous savez qu'il y a une prophétie à laquelle vous pouvez participer à son accomplissement? Vous ne savez pas ça? Il y a une prophétie, mes amis, dans la Bible. Il y a une prophétie dans la Bible. Et selon la réponse que vous allez apporter ce soir, vous pourrez y participer ou pas. Est-ce que vous voulez savoir de quoi il s'agit? Apocalypse 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Le grand cri du message du troisième ange, mes amis. Qui est l'œuvre, qui sera l'œuvre d'un peuple que Dieu aura investi de son esprit. Un peuple qui aura le fruit de l'esprit. Et qui sera de ce fait l'instrument de Dieu pour éclairer la terre, pour que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Bien-aimés, Jésus nous a dit, pendant qu'il est jour, il faut que nous fassions les œuvres de Dieu. Pendant que nous sommes vivants, car une fois que la mort nous surprend, mes amis, il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard pour servir Dieu. Il est trop tard pour faire la volonté de Dieu. Car lorsque la nuit arrive, lorsque la mort nous surprend, mes amis, il n'y a plus de temps pour nous. Et nous allons voir durant deux autres présentations que nous allons présenter, très précisément que je vais présenter, nous allons voir comment continuer à œuvrer pour Dieu. Nous allons voir qu'il y a d'autres applications à ce passage-là. Mais pour ce soir, mes amis, pour ce soir, le Seigneur nous lance un appel. Il nous lance un appel. Il nous demande de pouvoir nous donner entre ses mains. Il nous demande de pouvoir abandonner notre vie entre ses mains pour que son esprit puisse porter du fruit en nous. Combien d'entre nous, ce soir, voulons être des hommes et des femmes dont le Seigneur pourra se servir pour éclairer la terre de sa gloire? Moi, je le veux, mes amis. Moi, je le veux. Et c'est pour cela que, si vous le voulez, alors prions le Seigneur pour qu'il puisse agir en nous, comme il l'entend, et que sa volonté seule soit faite dans notre vie. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et nous avons vu, ligne sur ligne, à savoir texte après texte, comment accomplir tes œuvres pendant qu'il est jour. Et tu nous fais comprendre que tu as prévu d'avance des œuvres pour nous, afin que nous puissions les pratiquer, y marcher. et que si nous nous abandonnons entre tes mains, eh bien, tu mettras en nous le vouloir et le faire. Et nous produirons, nous porterons du fruit pour ta gloire. Alors, donne-nous d'avoir les yeux fixés sur Jésus, qui, pendant qu'il faisait jour pour lui, ici-bas sur terre, il a accompli les œuvres que tu lui avais confiées. Puissions-nous être des ouvriers assidus. Puissions-nous être des forces motrices dans ton œuvre et non des personnes qu'il faut porter simplement ou qui répondent aux abonnés absents ou aux absents lorsqu'on a besoin de nous. Mais qu'au contraire, que nous puissions être entièrement dévoués à ta cause et non seulement à l'œuvre, l'avancement de l'Évangile dans la proclamation, dans la fidélité que nous avons envers ce que tu nous as confié, mais aussi envers toi-même, pour que nous puissions porter ce message avec la puissance du Saint-Esprit, avec la beauté de ton caractère en nous, de sorte que, eh bien, la terre soit éclairée de ta gloire. Alors bénis chacun d'entre nous, Père, et conduis-nous. C'est la prière que nous faisons monter vers toi, dans le bon nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.